Le journal Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Pour la première fois, il commence à dessiner les contours du monde d'après. Emmanuel Macron veut une reconstruction économique, écologique et solidaire qui sera, dit-il, la clé de notre indépendance. Quelles sont les étapes vers ce nouveau chemin ? Analyse dès le début de ce journal et la réaction bien circonspecte des Verts qui estiment, eux, que le monde d'après ressemble à l'ancien.
Pourquoi le chef de l'État met en avant les notions d'indépendance et de patriotisme ? C'est le billet politique de Frédéric Seize à suivre juste après ce journal.
À la une encore, le retour obligatoire de tous les élèves dans les écoles et collèges dès lundi prochain, la réouverture des bars et restaurants jusque dans les salles partout en France.
Et puis le soutien d'Emmanuel Macron encore aux forces de police en plein mouvement contre les violences policières et contre le racisme. Pas question non plus de tomber dans le communautarisme.
Et puis à l'heure de la réouverture progressive des frontières intérieures en Europe, la question du retour des touristes se pose en Italie. Nous vous emmènerons à Venise dans ce journal, l'une des villes les plus visitées au monde, encore vide. C'est le début de notre série sur les routes européennes toute cette semaine. Il se dit heureux de cette première victoire contre le virus, mais Emmanuel Macron veut aussi tirer toutes les leçons de la crise sanitaire, assurant que nos forces, nous les conforterons, nos faiblesses, nous les corrigerons vite et fort. En accélérant le déconfinement hier soir, le chef de l'État a également tracé un nouveau chemin donc pour le monde d'après.
Il nous faut aussi créer les emplois de demain par la reconstruction écologique qui réconcilie production et climat. Avec un plan de modernisation du pays, autour de la rénovation thermique de nos bâtiments, des transports moins polluants, du soutien aux industries vertes. Cela passera aussi par l'accélération de notre stratégie maritime, nous qui sommes la deuxième puissance océanique mondiale.
Les intentions d'Emmanuel Macron assez fortes hier soir lors de son allocution qui a duré une vingtaine de minutes, mais les contours du monde d'après sont à peine esquissés. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
L'écologie est donc l'un des axes définis hier soir pour reconstruire le pays.
Oui, avec la souveraineté et la solidarité. Emmanuel Macron a ainsi appelé de ses voeux une économie souveraine, prononçant 5 fois le mot indépendance. Alors que cette crise a révélé nos failles, notre dépendance vis-à-vis de certains produits, on pense notamment aux masques ou aux principes actifs des médicaments, il faut relocaliser quand cela se justifie, a précisé le chef de l'État, n'oubliant sans doute pas que cette solution implique aussi une augmentation du prix des produits. Deuxième axe de cette reconstruction, l'écologie, donc, on vient de l'entendre, dont le chef de l'État veut faire une opportunité pour créer des emplois. La Convention citoyenne pour le climat, qui rendra ses conclusions en fin de semaine, contribuera, a-t-il dit, à ce projet. Dernier point, la solidarité. Emmanuel Macron a cité pêle-mêle les personnels soignants, les personnes âgées, les plus pauvres et les jeunes, parlant d'investissements massifs pour l'instruction, la formation et les emplois de notre jeunesse, sans rentrer davantage dans les détails. Une reconstruction qui se fera avec l'Europe, a-t-il encore précisé, louant le plan de relance franco-allemand de 500 milliards d'euros, qualifié de tournant historique. Alors pour relancer la machine, il faudra travailler et produire davantage, a prévenu le chef de l'État. Une petite phrase qui ne passe pas inaperçue, mais qui appelle encore des précisions. Plus clair, cet engagement à ne pas augmenter les impôts pour financer les dépenses liées à la crise. Voilà donc les grandes lignes. Pour les détails, il faudra attendre. De premières annonces seront faites en juillet, notamment pour les jeunes. Puis le plan sera préparé pendant tout l'été pour une présentation à la rentrée et une mise en œuvre rapide, le chef de l'État l'a assuré.
Anne-Laure Jumet, merci pour ces explications sur ce nouveau chemin, donc on l'aura bien compris, et qu'Emmanuel Macron veut tracer autour de l'écologie, de la souveraineté économique, de l'unité de la République et de la déconcentration. Alors qu'est lancé officiellement aujourd'hui le début de la campagne pour le second tour des municipales le 28 juin prochain, l'appel d'Emmanuel Macron à une économie verte a étonné le député européen David Colman d'Europe Écologie Les Verts.
Quand par exemple il dit qu'il va falloir travailler et produire davantage, lorsqu'il parle de pacte productif, j'entends pas là une remise en question de la façon dont nous avons de produire, puisqu'aujourd'hui notre modèle dit productif est un modèle qui est extrêmement prédateur de notre environnement. Et tout l'enjeu, c'est de changer ce modèle dit de développement qui fait beaucoup de mal à la planète et aussi beaucoup de mal à l'égalité sociale. On a l'impression qu'il utilise les mots de l'écologie, mais toujours avec des référentiels qui sont, de mon point de vue, très datés. La question de la relocalisation de l'économie, oui, elle est importante. Mais quand il parle de l'Europe, par exemple, il aborde la question des investissements et de la dette partagée, mais il ne parle pas du rôle que pourrait jouer l'Union européenne, justement, pour arrêter ce déménagement du monde. ce déménagement du territoire, cette mondialisation sauvage. Et pourquoi il ne le fait pas ? Parce qu'il continue à défendre, par exemple, les traités de libre-échange.
Le député d'Europe Écologie Les Verts, David Cormon. Satisfait à présent des syndicats d'enseignants sur la réouverture totale des classes en collège et dans les écoles, qui doivent se préparer donc dès lundi prochain à accueillir tous les élèves de manière obligatoire. C'est ce qu'a expliqué Emmanuel Macron hier soir. Et c'est une bonne nouvelle pour Françoise Popineau, co-secrétaire générale du SNUIPP-FSU, qui s'interroge tout de même sur la capacité des établissements scolaires à accueillir tous les élèves.
Tous les élèves dans une classe, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de la distanciation. Alors, qu'en est-il ? Est-ce qu'on tient compte de la distanciation et donc comment ? Est-ce qu'on a toujours une obligation de lavage répété des mains, auquel cas on va avoir du mal à faire se laver les mains à tout le monde de façon régulière dans une école, puisqu'il n'y aura pas de sanitaire supplémentaire dans les jours à venir ? Donc, on a beaucoup d'interrogations encore sur la mise en œuvre du protocole. Sommes-nous prudents ? Est-ce que cela a été bien envisagé par une autorité médicale, parce qu'il ne faudrait pas faire prendre des risques à une partie de la population. On sait que plus il y a d'enfants dans une école, plus il y a d'adultes.
Françoise Popineau, co-secrétaire générale du SNUIPP-FSU. Jacques Attali, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'invité de Guillaume Erner dans les matins de France Culture, écrivain, auteur notamment de L'économie de la vie, paru chez Fayard. Quelle est votre réaction par rapport à ce nouveau monde, ce monde d'après, dessiné hier, esquissé du moins par Emmanuel Macron ?
Il faudra voir ce qui est derrière. Pour ma part, je pense qu'il faut cesser d'arroser à tout va une économie qui ne serait pas réorientée d'une façon précise en fonction de ce que cette crise nous a appris. Cette crise nous a appris qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus importants que d'autres, ce que j'appelle les secteurs de l'économie de la vie. Vous avez parlé de l'école tout à l'heure, l'école est évidemment un des secteurs de l'économie de la vie, mais il y a des secteurs qui n'en sont pas, et on aura peut-être l'occasion, j'espère, d'y revenir tout à l'heure. Pour l'école, la question est bien sûr de savoir si on y rentre ou pas maintenant, mais la question est de savoir plus précisément qu'est-ce que cette crise nous a appris. Sur l'école, elle nous a appris d'abord qu'il faut une formation permanente. Elle nous a appris ce que moi-même, j'avoue, je ne savais pas, que les enseignants n'ont pas de matériel informatique personnel fourni par l'enseignement national, l'éducation nationale, ce qui est ahurissant. Donc premièrement, doter les enseignants de moyens numériques.
Et les élèves également.
Et les élèves évidemment également. Troisièmement, on n'a pas assez favorisé pour l'éducation le travail de groupe entre élèves, qui aurait permis et qui permettrait encore aujourd'hui de réduire les inégalités entre ceux qui ont une famille qui peut les aider et ceux qui ne peuvent pas. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre et qui font qu'il faut totalement réorganiser le secteur éducatif, comme beaucoup de secteurs que cette crise fonctionne comme un révélateur. Donc dans l'économie de la vie, l'éducation est un secteur clé et il ne faut pas se contenter de débattre, de savoir s'il faut rentrer le 23, le 24 ou le 22.
Merci beaucoup Jacques Attali, on vous retrouve juste après ce journal. Donc,
en attendant, il est 8h08, Catherine, sur France Culture. La suite des matins, quelques heures après l'allocution d'Emmanuel Macron, quelques centaines de policiers se sont rassemblés hier soir à Paris sur l'esplanade du Trocadéro.
Des gyrophares allumés, des sirènes hurlantes, des policiers pas convaincus visiblement par les propos du chef de l'État face aux sujets qui se sont imposés ces derniers jours dans l'actualité, ceux du racisme et des violences policières. Sans nier le mécontentement des forces de l'ordre, Emmanuel Macron a clarifié la position de l'exécutif face à la police.
Nous ne bâtirons pas davantage notre avenir dans le désordre. Sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité, ni liberté. Cet ordre, ce sont les policiers et les gendarmes sur notre sol qui l'assurent. Ils sont exposés à des risques quotidiens en notre nom. C'est pourquoi ils méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation.
Une précision étant faite donc sur les violences policières, le président n'a pas éludé la question du racisme dans notre société, Rosalie Lafarge.
Effacer le passé ne règle pas les problèmes du présent, estime le président. La République n'effacera donc aucune trace ni aucun nom de son histoire, pose d'emblée Emmanuel Macron. Franchement pas pour le déboulonnage des statues qu'on a pu observer au Royaume-Uni, par exemple. Et c'est un thème qui est cher au chef de l'État. On ne gère pas les passions mémorielles en supprimant des pans de l'histoire, en niant ce que nous sommes. Au contraire, il faut de la vérité dans le passé pour mieux construire l'avenir. Silencieux, et cela lui a été reproché depuis la mort de George Floyd aux États-Unis et les importantes manifestations en France comme à travers le monde, Emmanuel Macron promet d'être intraitable face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations, mais il s'élève, comme à son habitude, contre toute forme de communautarisme ou de récupération par les séparatistes. Pas question pour autant de nier la réalité. Il semble reconnaître entre les lignes que si beaucoup groupe a déjà été fait, beaucoup reste à faire en la matière et il annonce de nouvelles décisions fortes à venir pour renforcer l'égalité des chances.
Et la salle Colbert à l'Assemblée nationale va-t-elle être débaptisée? C'est en tout cas ce que propose l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Celui qui est devenu président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a signé une tribune en ce sens hier dans Le Monde. De même pour la salle Colbert du ministère de l'Économie et des Finances. Et Jean-Marc Ayrault souhaite faire clarté, je cite, sur notre propre histoire en rappelant que Colbert a été l'auteur du Code noir qui qualifiait les esclaves de biens meubles qu'on pouvait vendre, exploiter et violenter. Autant on emporte le vent de retour sur la plateforme HBO Max 5 jours après en avoir été retiré, mais avec une introduction sur le contexte historique du film et du récit assuré par une universitaire, Jacqueline Stewart, une femme noire et professeure au département du cinéma et des études médiatiques de l'université de Chicago. Pour moi, c'est une opportunité de réfléchir à ce que les grands classiques du cinéma peuvent nous enseigner, a-t-elle déclaré. Il est 8h11 sur France Culture, c'est donc le premier signe tangible de l'accélération du déconfinement, la réouverture des bars et des restaurants à Paris ce matin avec des clients jusque dans l'intérieur des salles. Une mesure attendue par le secteur, particulièrement pénalisé par les semaines de confinement. La reprise se fait lentement, par exemple à Toulouse où tout a rouvert depuis le 2 juin dernier. Entre gestes barrières, baisse du chiffre d'affaires, chômage partiel et fonds lancés par la ville, Yvan Planteil a rencontré des restaurateurs toulousains inquiets mais heureux tout de même de pouvoir servir à nouveau.
Quand on demande comment s'est passée la réouverture, Stephen Chong ne manque pas d'adjectifs.
Catastrophique, cataclysmique.
Il tient plusieurs restaurants, dont un près de la place du Capitole et qui s'appelle La Fin des Haricots, Fin, F-A-I-M, un nom qui aurait pu devenir prophétique. La semaine dernière, il servait 10 fois moins de couverts qu'avant le confinement. Il est donc obligé de prolonger le chômage partiel pour certains employés.
Habituellement, dans nos 3 restaurants, on a 19 personnes plein temps. On va dire en moyenne, on a la moitié de l'effectif en chômage partiel.
À plusieurs centaines de mètres d'ici, dans le quartier des Carmes, Hervé Bourg et son restaurant La Verrière retrouvent enfin des couleurs. Les clients reviennent peu à peu, mais pas n'importe lesquels.
En ce moment, c'est plutôt jeune. Les anciens ont encore un petit peu peur, je pense, et ils sortent pas trop. Ça commence. Là, je pense qu'à la fin du mois, là, quand les choses vont se réouvrir, ça ira beaucoup mieux, ils reviendront, il n'y a pas de souci.
La ville de Toulouse a mis en place une exonération des droits de terrasse pour 2020 et de la possibilité d'agrandir ces mêmes terrasses avec plusieurs cas de figure, selon l'adjoint au commerce Jean-Jacques Bolzon.
Soit la rue barrée, soit des places de stationnement gelées pour mettre des tables et des chaises, soit d'aller sur des places, bien sûr, qui sont inoccupées. Tout cela se fait sur une période aussi restreindre, c'est jusqu'au 30 septembre.
De son côté, la métropole finalise la création d'un fonds d'aide au secteur du tourisme. Il profitera aux 2000 bars et restaurants de Toulouse.
Un reportage signé Yvan Planteil. Comme plusieurs autres pays européens, la France rouvre aujourd'hui ses frontières intérieures, à l'exception de la frontière avec l'Espagne, le gouvernement de Pedro Sanchez gardant ses propres frontières fermées jusqu'au 21 juin prochain. Par ailleurs, une quarantaine est imposée aux voyageurs arrivant du Royaume-Uni selon une même logique de réciprocité. La plupart des pays d'Europe orientale imposent, eux, une quarantaine aux arrivants sur leur sol. Et en Italie, pays le plus touché par la pandémie en Europe, les frontières sont largement ouvertes à tous depuis le début du mois. Mais les touristes ne sont pas encore de retour. À Venise, l'une des villes les plus visitées au monde, la ville est encore bien vide. Le reportage d'Éric Biegala.
Canotier sur la tête, Paul Oreiller, Emanuele Tagliapetra, dit Lele, est l'un des 450 gondoliers de Venise. Aujourd'hui, sa gondole, comme celle de ses collègues, est à quai, place Saint-Marc. Elle n'en bouge plus.
Hier, j'ai pour la première fois essayé de refaire des promenades. Je n'ai eu aucun client de toute la journée.
Le problème, c'est que la ville, l'une des plus visitées au monde, est aujourd'hui vide.
Nous, à Venise, on est tous prêts. Tout le monde est là. Le problème du virus est derrière nous. Nous attendons que les touristes puissent revenir.
Venise désertée, l'année dernière, c'était exactement le contraire. Le flux continu des près de 30 millions de touristes annuels avait atteint la limite du supportable. Taxes d'entrée, portiques de comptage, la municipalité avait même tenté de réguler ce flux massif. Aujourd'hui, pour Lele, ce n'est vraiment pas la priorité.
D'accord, pour moins de monde, c'est vrai qu'il y avait trop de monde à Venise. Mais le désert, non. Il faut trouver un juste milieu.
La reprise est peut-être en vue pour la réouverture du Palais des Doges sur la place Saint-Marc ce samedi. Plus d'un millier de réservations ont été enregistrées. L'avant-veille, il n'y avait pas plus d'une dizaine de touristes faisant la queue au même endroit pour la basilique mitoyenne du palais.
Éric Biegala, que nous suivrons toute cette semaine avec Gilles Gallinaro à la technique sur les routes européennes à l'heure donc de la réouverture progressive des frontières intérieures. La Chine annonce un rebond des nouveaux cas de Covid-19, faisant craindre une seconde vague de l'épidémie. 57 cas confirmés en 24 heures, dont 36 liés à un marché de gros à Pékin, le plus haut chiffre quotidien depuis le mois d'avril. Une nouvelle inquiétante pour le reste du monde, montrant les difficultés à contrôler cette pandémie qui continue à faire rage en Amérique latine, en Iran et en Inde. Aux Philippines, la journaliste Maria Ressa, jugée pour diffamation dans une affaire où elle risque des années de prison, a été déclarée coupable ce matin par un tribunal de Manille. Les organisations de défense de la liberté de la presse considèrent que cette procédure vise en fait à réduire au silence les critiques contre la politique du président philippin Rodrigo Duterte. Le temps de ce lundi 15 juin, instable sur une grande partie du territoire, le Puy-de-Dôme où l'Allier est en crue reste en vigilance orange. Au meilleur de la journée, il fera entre 17 et 21 degrés près des côtes de la Manche et de l'Atlantique, entre 23 et 28 degrés près de la Méditerranée, comptez de 19 à 24 degrés partout ailleurs.